Le mystique, la rose et l'épine. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors, je referme la parenthèse. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que là, nous, on est sortis. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, Shema Israël, prends garde Israël. Hachem, donc, et nous. Hachem, qui est notre Dieu. Hachem Echad. C'est le Hachem 1. Bon. Alors, on va étudier un enseignement du chiffré sur ce mot du Echad. Je vais prendre ça. À quelle page? Vous êtes sûr avec moi? Alors, vous avez d'ailleurs la référence du chiffré. Je vous ai fait photocopier un chiffré qui se trouve dans le pirouge du Malbim. Alors, vous avez la référence là. La lettre même, c'est la page 40 en hébreu, 70 en français, du cinquième livre du commentaire du Malbim. Alors, on commence après les deux points. Hachem Elokeinu, Hachem qui est notre Dieu. Lama Nehemar, pourquoi il est dit Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu? Suivez sur le texte. Va'alo kvar Nehemar, n'est-ce pas qu'il est déjà dit d'autre part, Hachem Echad, Dieu 1? Alors ça veut dire, que signifie cette précision, Hachem Elokeinu, Dieu de nous? N'est-ce pas que nous savons que le verset dit de Dieu qu'il est un? Quel est le sens de cette question? Oui, assez de regarder en l'air. Vous étudiez ce texte. Alors, je répète, on reprend le texte, oui. Hachem Elokeinu, Hachem, notre Dieu, lisez. Lama Nehemar, Hachem Elokeinu. Valo Kvar Nehemar, Hachem Echad. Puisque le texte va dire que Hachem est Echad, qu'il est un, ça veut dire premièrement qu'il est Yachid, qu'il est unique, qu'il est seul à être Dieu, mais ça veut dire surtout qu'il est un, qu'il est aussi le Dieu de tous. Alors pourquoi tu dis Hachem Elokeinu? Vous avez compris la question? Bon. Réponse. Et là, Alenu Chal Shmo Veyoter. C'est sur nous que son nom a été invoqué, relié par invocation Veyoter plus. Alors là, vous avez un enseignement très important. Hachem, le créateur de tout, est le Dieu de tout. Mais il a révélé que son nom, c'est Dieu d'Israël. J'ai déjà donné une autre nuance. Alenu uchal shmo beyoter. Je vous donne tout de suite une référence, vous allez la noter et l'étudier par vous-même, dans le livre de Bréchit. Alors, cette référence, c'est dans la paracha de Vayetse. Donc, je vous donne le chapitre, dans la vision de l'échelle des anges de Jacob, et je vous donne le verset. Au début de la paracha, voilà. Lorsque Jacob se réveille de son rêve où il a vu la vision des anges, l'échelle de Jacob, hein, c'est ce que vous cherchez. Alors quand il se réveille, il y a le verset suivant, verset 20 du chapitre 28. Notez. Vaïda et Jacob ne devraient et Jacob fit un vœu en disant Imi Elokim m'a dit, si Dieu est avec moi, et qu'il me protège, et qu'il me préserve, et qu'il me garde dans ce chemin que je suis en train de suivre, puisqu'il va en exil, il quitte Beersheba, il va aller s'enfuir de la colère d'Ésaü, il va aller se réfugier à Haran, chez son oncle Laban. Et après, toute l'histoire de l'exil de Jacob chez Laban va commencer. Donc il est Badere Chazé, Asher Anfi Oler, ou Bertha Badere. Benatani Lechem Nechol, bébé. Et qu'il me donne du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller. Verset 21. Veshapti Beshalom el Betabi, et je reviendrai, et que je revienne, mais littéralement c'est je reviendrai en paix à la maison de mon père, Veaye Hachem Yéloï. Et Hachem sera pour moi Dieu. Le même chiffré, mais plus haut, même Midrash, mais plus haut devant. Est-ce que c'est une condition que Jacob pose à Dieu? Si tu me protèges, si tu m'assures de mes besoins, et si tu me ramènes en paix, alors tu seras mon Dieu. Et le chiffré dit, Hachem, l'il Elohim, mikomako. Hachem sera mon Dieu dans tous les cas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Hachem sera mon Dieu à moi. Et ça veut dire que le nom de Dieu soit évoqué sur moi, sur Jacob. Je vous ici une parenthèse, parce que c'est important ce que j'ai cité là. D'abord, qu'est-ce que c'est un éder? C'est pas une prière de condition. Vous savez, c'est ce que les historiens des religions définissent par l'expression latine quand on prie en disant « je serai vertueux si, tu me donnes le paradis ». Et à la limite, le contrat hein, religieux, c'est « do ut das ». C'est pas du russe, hein, c'est du latin. « Do ut das », c'est « do, je donne », « ut, afin que », »,« das, tu donnes bon. ». Alors, c'est pas du tout une prière de contrat de ce genre. Un éder, c'est un vœu de privation. Jacob vient de recevoir la bénédiction qui devait aller à Esaü, la bénédiction de l'abondance des biens matériels. Mais il en a peur. Il a peur de l'engagement dans le problème économique. C'est pas pour lui. Il préfère s'enfermer dans les yeshivas et recevoir une stipendia du gouvernement d'Israël. Mais, comment on dit stipendia?
Une
bourse, oui. Mais, les chassidim ont expliqué cette expression du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller. Et je crois que c'est rattaché au Baal Shem Tov lui-même, cet enseignement. Du pain, c'est pour manger, un vêtement, c'est pour s'habiller. Qu'est-ce que la Torah veut dire? Elle nous apprend que du pain, c'est pour manger, un vêtement, c'est pour s'habiller. Il dit non. Je ne veux pas du pain que j'aurai à vendre pour acheter un vêtement. Et je ne veux pas un vêtement que j'aurai à vendre pour acheter du pain. Si j'ai du pain, c'est pour manger. Si j'ai un vêtement, c'est pour m'habiller. C'est-à-dire, refuse le commerce. Jusque-là, ça va. Est-ce que c'est clair hein? Ça vous étonne. Jacob, le premier des Juifs, refuse le commerce. Il en a peur. Les commerçants savent pourquoi. Il y a trop de concurrents. Et alors, et en fait, ici, il y a une indication très importante. Tant qu'il est en exil, il ne peut pas dire que Hachem, c'est son Dieu. Véchat, dit Béchalom El Vétavi, et je reviendrai en paix sur la maison de mon père, alors Hachem sera pour moi Dieu. Est-ce que c'est clair? Lisez bien le verset. C'est-à-dire, en route, l'arrêt, on est obligé de passer par les Sarim des Goyim. Je ne voulais pas le dire, mais tu l'as dit, bon, mais enfin, en traduit pas, ça nous ferait une énorme parenthèse. La relation entre Dieu et l'individu passe par la relation globale entre Dieu et ce peuple. Est-ce que c'est clair ce sujet-là? Vous voyez, j'ai aussi ouvert une porte d'un problème énorme. Okay? Voilà ce que dit Jacob. Quand je reviens.
Du pain pour manger, c'est une manière d'être toujours en bonne santé. Du pain que je pourrais manger.
Oui, mais ça, c'est déjà sur ce qu'on étudiait avant. Je suis déjà sur un autre verset. Faites attention, vous êtes encore en train de penser sur le verset d'avant. Non, je parle. Véchati, Véchalom, El Betavi, Véhachemi. Dire, ok, ça, je pourrais ajouter à ce que vous avez dit. Il y a un vêtement pour s'habiller, ça interdit le nudisme. C'est encore autre chose. Je reviens au verset 21. Véhachemi, Elokim. Ce qu'on étudie en un certain tour, que ceux qui habitent en dehors du pays d'Israël, comme ressemble à celui qui n'a pas de Dieu, c'est dans ce sens-là. Donc le nom de Dieu n'est pas particularisé sur lui. Ve'Hachem li Elokim. Alors c'est comme ça que le Sifrei explique Hachem Elokim. Je continue. Dans le Sifrei, juste un peu. Kayot et Bazé, chose analogue, à Taomer, à propos du verset qu'il y a dans Shemot, Shalosh Permim Bashana, trois fois par an, Yirei Kodzerukra, tous les mâles seront vus. Et Penea Adon, Hachem, devant le maître, Hachem, Eloke Israël. Ou Mani Tsarir, qu'est-ce que j'ai besoin que tu me dises Eloke Israël? Si tu m'as dit déjà, Valok Varneemar, suivez ce texte. N'est-ce pas qu'il est déjà dit, Et Penea Adon, devant le maître. Matavudomar, qu'est-ce que ça veut dire Eloke Israël, Hachem Eloke Israël, Al Israël, Uchal, Shmo Veyoter. C'est sur Israël que son nom est formulé. Plus centralement, disons. Et effectivement, l'histoire l'a démontré. C'est que tous ceux qui ont lu la Bible, c'est le monde entier, finalement. Il a fallu le temps. Grâce aux Anglais, enfin aux Britanniques. Vous savez, nous avons une énorme dette vis-à-vis des Britanniques. D'abord, ils nous ont donné avec Israël, on veut dire qu'on les a aidés un peu. Mais surtout, ils ont diffusé la Bible. Les premières éditions à l'échelle mondiale de diffusion de la Bible, c'est les Anglais. Je ne sais pas si vous savez ça. Les premières éditions de la Bible, pour le monde entier, c'est d'abord l'édition des Anglais. Les Anglais. Non, les Anglais. Et la première diffusion de la Bible s'est faite par l'Empire britannique. Les Allemands, c'est secondaire, en fait, second, ou les Français, ou les Espagnols. C'est que la Bible, c'est le livre qui a été traduit dans toutes les langues, mais c'est d'abord les éditions anglaises. Lorsque l'édition Koren, la première édition de la Bible édite en Israël, en hébreu, apparut, Ben Gurion a dit que, vous connaissez l'édition Koren, la belle édition Koren, que Otsenu et Herpat Agoim Mehalem. Ben Gurion a dit ça. Nous avons mis fin à la honte des nations sur nous que l'édition de la Bible était une édition anglaise. La Bible en hébreu, même. Je sais pas, moi quand j'étais enfant au Talmud Torah, on étudiait sur les Bibles en papier, l'édition anglaise, la Bible en hébreu. Mais non, moi j'en ai eu encore dans le... Vous rappelez de cette édition? Il y avait en bas Hebrew British Company. Je me rappelle très bien. Bon, chez les Hérédis, il y avait aussi des éditions allemandes, des éditions même danoises, mais je veux dire hollandaises. Mais les premières éditions, maman, c'était l'édition des Anglais. À grande diffusion. Mais, pourquoi j'ai dit ça? Oui. Seulement, tout le monde sait que Dieu s'appelle le Dieu d'Israël. Mais c'est clair. Vous voyez, dans toutes les églises du monde, on prie le Dieu d'Israël. C'est tout. La première fois que j'ai découvert ça, j'étais très jeune, j'étais plus qu'étonné. Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour dire ça. Vous avez des paysans de tous les paysages qui prient le Dieu d'Israël dans leurs églises, et même dans leurs mosquées, ils savent que c'est le Dieu d'Abraham, et les Juifs ne s'en rendent pas compte. Le monde entier prie le Dieu d'Israël. Et le monde entier sait que Dieu s'appelle Dieu d'Israël. C'est ça que dit le Midrash. C'est pas plus compliqué que ça. C'est clair. Bon, il n'y a que Israël qui est Israël. Ça, c'est notre problème avec l'égoïsme. Mais ça va commencer à s'arranger. Je continue sur ce Midrash. Encore un verset. Kayotse Vadavar, encore une analogie à Tomer. Vous êtes dans Tehilim. Vous y êtes. C'est le psaume 50, verset 7. Tehilim. Je vous ai ajouté un mot parce que dans l'impression, le dernier mot du verset n'a pas été rappelé. Shima Ami Vadavera. Écoute mon peuple et je parlerai. Oui, Shema Israël. Israël Vaidabar. Israël et je témoignerai pour toi. Elohim Elohecha. Dieu qui est ton Dieu, Anochi je suis. Elohim, Dieu, Elohecha, je suis ton Dieu. Matamou le mar Elohecha Anochi. Et Anochi Pani. Et qu'est-ce que ça veut dire, je suis ton Dieu, c'est moi ton Dieu? Uchal Shemo Beyoter. Son nom est invoqué en particulier le plus sur Israël. Quand Israël parle de lui, il ne dit pas surtout je suis le Dieu du monde, nous savons qu'il l'est. Il dit je suis le Dieu d'Israël. Alors c'est ça que ça veut dire Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad. Et là vous avez le complément, il ne faut pas oublier. Que bien que Hachem soit notre Dieu, il est Echad. Mais c'est soit Hachem Echad qui est notre Dieu à nous. Voilà. Réfléchir que à cette dimension-là de lecture. C'est un peu plus dense que ça, mais je ne vais pas trop charger. Un jour se dévoilera ce mystère que seuls les Juifs sont incapables de percevoir. Je crois qu'il y a deux explications que je me suis données. Je n'ai pas de texte à vous citer. Le monde entier sait que Dieu, c'est le Dieu d'Israël. J'aménage un peu. Le monde entier sait que si Dieu existe, il s'agit du Dieu d'Israël. Plus exactement, que si Dieu s'est révélé, il s'est révélé à Israël. Comme je dis souvent à mes collègues curés et muftis, quand on est en colloque, vous êtes tous d'accord que la révélation a d'abord eu lieu en hébreu. Et j'emploie une image de télévision, en différé, ça vous est arrivé, mais en direct, c'est ça que veut dire. Mais il n'y a que les Juifs qui se rendent pas compte de ça. Les Goïm s'en rendent compte. Et vous savez, les implications de rivalité et de jalousie que ça induit. Imaginez, j'ai lu il y a très peu avant, c'est André Chouaki, indépendamment des traditions de la vie, c'est un grand poète, et il fait énormément de poèmes qui ne sont pas connus. En fait, quand nous étions, juste après la guerre, on étudiait ensemble, après la débâcle, là, quand il était élève à l'école rabbinique, il n'a pas fini le rabbinat, mais il était, je crois, caché à l'école rabbinique, ou réfugié à l'école rabbinique. Quand l'école rabbinique s'est repliée à un endroit qui s'appelait le Chambon. Enfin, peu importe. Et ensuite, il a pu être rapatrié en Algérie, je l'avais en étudié ensemble. Pourquoi j'ai parlé de la chose? Ah oui, elle me faisait lire ses poèmes. Et il y a de très très beaux poèmes. La jalousie des nations vis-à-vis d'Israël, une espèce de frustration. Comment se fait-il Et c'est un grand problème, c'est un grand mystère pour eux. Pourquoi quand Dieu a décidé de se révéler, il se révélait à Israël? Alors il y a une espèce de frustration à posteriori. Et pourquoi pas nous? Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a que les Juifs qui ne se rendent pas compte de ça. Et qui ne se rendent pas compte que c'est très délicat et très dangereux ce sentiment d'égoïsme. Parce que si ce n'est pas très pur, ça tourne à l'antisémitisme tout de suite. Cette frustration devient de la haine. C'est là, les femmes délaissées par rapport à la femme choisie. Je ne sais pas si vous imaginez où ça va. Ça, c'est le langage du prophète. Okay? Venons de Jérusalem. Okay? Les Umotarolam, par rapport à Israël. Et ça reste un mystère. C'est-à-dire, si je cite le Oachim et un grand rav des Hasidim qui s'appelle Rav David Israël de Berditchev. Il dit, mais qu'est-ce que tu as avec Israël? Parle aux enfants d'Israël, ordonne aux enfants d'Israël, dis aux enfants d'Israël, et les autres. Oui, quel est ce problème? Ce fameux Kaddish de Rav Israël de Berditchev. Vous avez jamais entendu ce Kaddish? C'est un très beau Kaddish, un très beau view de. C'est la première fois que j'ai entendu chanter, c'était par un rabbin qui est décédé récemment, c'est le Paul Yachek. Vous avez entendu parler de Jean Paul Yachek. Il chante ça admirablement bien d'ailleurs. Donc, alors je reviens au sujet. Et puis on a finalement le dernier verset, d'avoir à faire, autre explication, Hachem Elokeinu, Hachem qui est notre Dieu. Et lisez ce qu'il y a en écriture Rashi, Hachem Echad est le Dieu un, et le Hachem Echad, Al-Kol Ba'er Olam, celui qui est un pour tout, il faudrait traduire ça littéralement. Les créatures sont appelées en hébreu Ba'er Olam, ceux qui viennent au monde, les gens du monde. Hachem Elokeinu, c'est lui, Hachem notre Dieu. Ba'er Olam Hazé, dans ce monde-ci, Hachem Echad Ba'er Olam Hazé, et il sera reconnu comme Hachem un dans le monde à venir. Et en fin de compte, le verset de Zechariah, chapitre 8, « Vaya Hachem elemeach al kol haaretz » et Hachem sera roi sur toute la terre, « Vayomam » en ce jour-là, « et Hachem Echad » Dieu sera un, comme il est déjà, « Ushmo Echad » et son nom sera un, comme ce n'est pas encore. Parce que chaque peuple a un nom différent pour l'invoquer. Et chaque nom différent pour l'invoquer, le nom que les peuples donnent à celui qui est Dieu, fait apparaître une idole. Derrière le mot de Dieu, vous avez toute une théologie philosophique de Zeus, qui est Jupiter chez les Latins, Jove, et que les témoins de Jéhovah font cet amalgame entre Jupiter, Jove et Jéhovah. Je referme la parenthèse. Parce que quand on pense à Dieu le Père en théologie chrétienne, on pense à un profil d'identité de Jupiter, Zeus, Deus, Dieu. Vous voyez pourquoi il y a du paganisme derrière. Je ne sais pas ce que vous avez dans l'imagerie religieuse, c'est interdit d'avoir quelque image que ce soit. Mais la plupart du temps, les gens de culture occidentale ont cette imagerie chrétienne de voir un père fouettard. Hein? C'est Jupiter. C'est d'abord ça. Et puis alors, suivant les âges, il a une barbe plus ou moins fleurie, on s'arrange pour lui mettre la figure du grand-père. Imagine comme ça. Okay. Méfiez-vous de ça. Ça, c'est l'imagerie païenne dans toute son splendeur. Bref, voilà. Alors, ça, c'est la première étude que je voulais avoir sur le Midrash. On a appris beaucoup de choses par allusion. Mais oubliez ce que vous n'avez pas intégré. Retenez surtout cela. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est clair? Donc, alors maintenant, on va étudier un petit peu dans la Gemara. Alors, vous prenez la page de la Gemara. Que je vais d'abord quelle heure il est. Bon, il nous reste à peu près 20 minutes, 25 minutes, avant qu'il fasse nuit pour la prière. Alors, on enchaîne, et surtout pour la Gemara, faites attention. S'il y a une question qui se pose à vous, que ce soit sur ce que vous venez d'entendre, pas sur d'autres études qu'on peut avoir, parce que c'est un texte extrêmement dense. Alors, la Mishnah commence par une question. Mais, Matai, à partir de quand? Vous suivez? Je vous ai fait imprimer un texte avec les voyelles, comme ça sera plus simple pour vous pour lire. Mais Matai, à partir de quand, suivez sur terre, c'est pas écrit sur mon front. Hein. Corinne, et Chemar, Baravin, on lit, c'est un mot araméen. Corinne, l'expression est araméenne. L'hébreu c'est Corim, avec un même à la fin. Vous avez tout le monde le texte? On va bien distribuer le texte. Où sont les textiles? Non, pas les maintenant. Hein. Ça y est? Bon, alors, suivez. Mais ma taille, Corinne, c'est pour Corim, avec même. En araméen, on met le nun à place du même. À partir de quand lit-on Etchema, le Shema, Baharavin? C'est le pluriel araméen pour Aravim, les soirs. Première question, pourquoi la question se pose sur les soirs, alors que la Mishnah, qui concerne le Kriyat Shema du matin, dit Shaharit et pas Shaharim? Pourquoi il n'y a pas écrit, mais matin, il connaît Shema Baharavit? Dans les éditions de la Mishnah, où il n'y a pas la Gemara, il y a la forme Baharavit, dans la Mishnah, dans les éditions de la Mishnah. Les livres, il n'y a que la Mishnah. Mais dans le Talmud, il y a la Gemara, c'est Baharavin au pluriel. Je dis tout de suite quel est le sens. On cherche l'heure à partir de laquelle, c'est bientôt d'ailleurs, à partir de laquelle la lecture du Shema devient une obligation. C'est une mitzvah, une chova de le dire. Si c'est avant le temps, j'ai dit une belle chose, mais je n'ai pas accompli un rite. Le rite est rite dans le temps où c'est le temps du rite. Déjà là, vous êtes en plein dans l'étude de la halakha. Vous pouvez se demander, mais quoi? Il faut savoir exactement à partir de quand on doit dire le Shema, pourquoi? Vous savez quelle est cette limite? C'est quand les étoiles apparaissent. On va essayer d'arriver jusque-là, au moins. Est-ce que c'est pas très beau de dire ça, que Dieu est là, un peu avant? Et si c'est ouais, cette règle qu'on dit dans la sagesse des nations, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure, l'heure, c'est l'heure. Et la mitzvah, vraiment, est mitzvah en son temps. On va apprendre dans le temps toute la nuit, a priori. A priori, on entend jusqu'à minuit. Si on a laissé passer minuit, c'est rattrapable, jusqu'au matin. Et qu'est-ce que c'est le matin? Et tout ça, il faut préciser. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de savoir qu'un rite est rite qu'au temps prévu pour le rite. Sinon, on a lu une belle chose, mais on n'a pas fait la proclamation de Dieu. Je vous dis tout de suite quelle est la réponse et qu'est-ce qu'on se cherche ici quand il dit à partir de quand? Est-ce qu'on ne sait pas depuis toujours? À partir de quand c'est le soir? Puisqu'il pose la question, à partir de quand on lit crèchement les soirs? Est-ce qu'on ne sait pas quand c'est le soir? C'est une autre question d'ailleurs. Mais est-ce qu'on ne le sait pas? Pourquoi cette question ne se pose pas? Si je sais quand c'est le soir, je sais quand on lit crèchement le soir. Vous avez suivi le raisonnement? Alors ça veut dire que suivant les mitzvot, le soir peut commencer à des moments différents. Et quand il fait ce qu'il demande, c'est à partir de quand c'est le soir pour cette mitzvah-là qui consiste à proclamer que Dieu est là. Est-ce que c'est clair? Et j'ouvre une parenthèse, vous avez expliqué quelque chose sur les rites, différence de rites entre ce qu'on a dit. Vous avez dû remarquer que si vous allez au côté le vendredi soir, vous remarquez que les Sfaradim commencent la prière du soir bien avant la sortie des étoiles. Alors les Ashkenazim attendent scrupuleusement qu'il y ait la sortie des étoiles. Et alors, ça se rattache à notre question ici. Parce que ce qu'on cherche, c'est à partir de quand c'est plus la journée, et à partir de quand c'est déjà la nuit. Or, vous avez le temps du crépuscule, qui est un temps de doute. Le temps du crépuscule, pour la tradition de la halakha, c'est entre le coucher du soleil et l'apparition des étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire l'apparition des étoiles? C'est l'achèvement du crépuscule. Mais, tant qu'il y a encore de la lumière du soleil, bien que le soleil est déjà de l'autre côté de l'horizon, ça cache la lumière des étoiles. Donc, l'apparition des étoiles, c'est le signe que la lumière a complètement quitté le ciel. Vous avez compris l'explication? Bon. Mais qu'est-ce qu'on cherche en fait? Quand est-ce qu'on passe d'un monde à l'autre? Du monde de la lumière au monde de l'obscurité? Est-ce que c'est dès le début de la transition ou à la fin de la transition? Vous voyez quelle est la question? Et nous avons dans la suite de la Gemara sept opinions, sept moments entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Je vous dirai simplement en passant, sans vous parler des sept enseignements, pourquoi il y a ces différences? Mais d'abord, il faut comprendre l'intention de la question elle-même. C'est très important de savoir quand on est passé du jour à la nuit. Parce que c'est quand on passe d'un monde à l'autre qu'il faut affirmer que Dieu est un. Si j'affirme que Dieu est un dans le monde de la journée, j'ai dit une belle chose. Mais ce n'est pas ce que cherche le livre. C'est quand je passe d'un monde à l'autre et que mon inconscient, surtout pour les modernes, pour les anciens, c'était très conscient, me suggère qu'il y a deux mondes. Il y a deux dieux peut-être, deux absolus, le dieu du jour, le dieu de la nuit, vous voyez, le zoroastrisme, okay, c'est au moment du passage, lorsqu'il y a ce moment vulnérable pour la sensibilité religieuse de risquer de penser qu'il y a deux absolus, c'est à ce moment-là qu'il faut affirmer Dieu est un. Vous avez compris? Donc avant, j'ai rien fait, et après, c'est tard. Il vaut mieux au moment même. On a, après, ça va encore dans la mitzvah, mais avant, c'est avant. Oui, je réponds à une question que, vous savez, que les synagogues des libéraux, des conservateurs ou des réformés n'arrivent absolument pas à comprendre ça. Je me souviens, un jour, j'étais à Paris, je vous racontais ça, ça vaut la peine. Je sortais d'un colloque judéo-chrétien, et puis, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Vous n'entendez pas? Non? Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a du bruit dehors.
Eh bien, fermez.
Oui.
Je sortais d'un colloque judéo-chrétien, et je me suis rendu compte, je parle aux chrétiens, et je ne parle pas aux juifs libéraux, c'est quand même des juifs. Et je n'avais jamais mis le pied dans une synagogue libérale. Consistorial, tout juste d'ailleurs, je dois vous dire. Enfin, c'est tout peu. Et alors, je prends mon téléphone et je téléphone au rabbin de la synagogue libérale. À l'époque, c'était le rabbin Zahoui de la Copernic. Je dis que j'aimerais bien passer une prière avec vous. Et si tu me donnes à faire le sermon, je serais très content. Il m'a dit comment? Viens, viens. C'est le loup dans la bergerie, mais c'est pas grave, viens. Et alors, je suis allé avant de l'histoire à la rue Copernic. Et puis, c'était un Shabbat d'été. Vous savez, en été, le Shabbat commence très tard. Et bien, ils avaient la prière à 6h de l'après-midi, tous les jours de l'année, 6h de l'après-midi. Et je sors de la rue Copernic, il faisait grand jour. Alors moi, j'avais pris une chambre d'hôtel à côté de la synagogue pour pouvoir pas violer le Shabbat. Et comme j'ai vu, il faisait grand jour, je me suis dit, c'est pas encore Shabbat. J'ai pris le métro, je suis rentré chez moi, j'ai refait ma prière Shabbat. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils n'arriveront jamais à comprendre que ce qu'on appelle batal, bracha le batala. Il y a le soleil en plein jour, et tu vas dire qu'il y a le chemin. Alors qu'on te demande de le dire au passage du jour à la nuit et de la nuit au jour, en te couchant et en te levant. C'est le moment précis où je passe d'un monde à l'autre et où je risque d'être pris par cette expérience. Combien de monde y a-t-il? Combien de Dieu y a-t-il? Vous avez compris? C'est une sensibilité religieuse de la halakha qu'il faut bien comprendre. Avant le temps, c'est pas le temps. Après, on expliquera pourquoi il faut attendre 3 étoiles par lequel. Mais le sens est très simple. Pourquoi on ne voit pas les étoiles? Elles sont là. C'est parce que la lumière du jour les cache. Donc il faut que la lumière ait fini d'être retirée pour qu'on voit les étoiles. Donc c'est le signe que le jour a fini. Dans le cas, on a décidé que le changement de monde, c'est à la fin du crépuscule et pas au début. Vous y êtes? C'est clair. On va apprendre que pour le Kriyat Shema, pour cette mitzvah-là, le passage d'un monde à l'autre, c'est la fin du crépuscule. Alors qu'il y a d'autres mitzvot où c'est le début du crépuscule. Donc il y avait place pour la question. En ce qui concerne le Kriyat Shema, quand est-ce que commence le soir? Au coucher du soleil ou à la sortie des étoiles? Quelle est la mitzvah qui commence au coucher du soleil? Parlez plus fort, j'entends. J'ai entendu. Le Shabbat. Le Shabbat, on décide de le commencer au coucher du soleil à cause de ce doute de ce qu'on appelle en hébreu Ben Hashem Hashut, entre les soleils, ça veut dire entre le coucher du soleil et l'apparition des étoiles. Est-ce que ce temps du crépuscule, ça fait partie du jour précédent ou ça fait déjà partie de la nuit, du jour suivant, donc de la nuit qui commence? Et on ne peut pas trancher. C'est un temps ambigu de transition entre un monde et un autre. D'un certain point de vue, ça fait partie encore du jour précédent, puisqu'il y a encore la lumière. Mais d'un autre point de vue, ça fait déjà partie du jour suivant, puisque le soleil s'est couché. Alors pour Shabbat, on décide de commencer au coucher du soleil et d'achever à la sortie des étoiles, à cause de la gravité de la loi du Shabbat. Pour ne pas risquer de violer le Shabbat dans les deux temps de crépuscule. Donc les deux temps de crépuscule rentrent dans le Shabbat. Vous avez compris? Alors ça vous explique pourquoi, si c'est clair jusque-là. Ça vous explique pourquoi, au Kotel, vous avez dans le rite Sfaradi, dès que c'est Shabbat, on considère qu'on a changé du monde de la semaine au monde de Shabbat, et donc on peut déjà dire Kriyat Shema. C'est-à-dire pour le monde Ashkenaz, on attend la sortie des étoiles. Vous avez compris pourquoi? C'est clair? Et d'où on apprend ça? De ce pluriel. On cherche une heure qui soit commune au jour de la semaine et au jour de Shabbat. Et pourquoi, à propos du Kriyat Shema du matin, il y a Shacharit et pas Shacharim? Parce que le matin, il n'y a pas de différence, le Shabbat matin, entre un jour de la semaine et un jour de Shabbat, le matin commence toujours au même moment. Vous y êtes ? Donc, dans la deux, c'est la troisième Mishnah. Pour le Kachemar de Shacharit, la formule c'est Shacharit. Tandis que pour le soir, étant donné qu'il y a une différence entre Shabbat et Chol, c'est les soirs et de Shabbat et de Chol. Bon, ça va ? Vous décantez et vous retenez l'essentiel. Alors la Mishnah répond. À l'heure où les Kohanim entrent pour manger leur trauma. J'ouvre une parenthèse pour expliquer de quoi il s'agit, et après on se posera la question, pourquoi on ne nous dit pas tout de suite quelle est cette heure-là, et pourquoi on nous dit un détour à l'heure où les Kohanim entrent pour manger la trauma. Mais cette heure-là, tu la connais d'autre part. Dans la Gemara qui s'occupe des Kohanim et de ce problème, tu sais quelle heure c'est. C'est là-bas qu'on apprend que c'est la sortie des étoiles que les Kohanim mangent leur trauma. Pourquoi tu ne me dis pas ici la sortie des étoiles ? C'est pour me faire apprendre quoi ? Vous y êtes ? Bon. Alors de quoi il s'agit ? Quand un Kohen est en état d'impureté, il n'a pas le droit de manger la trauma. La trauma, c'est le premier prélèvement de la récolte, les prémices. Okay ? Et ensuite, il y a le maaser, la dîme. Il y a différents niveaux de kdusha, de sainteté dans les nourritures du Kohen. Le premier niveau, c'est la trauma. Or, le verset prévoit que si un Kohen a été rendu impur, il doit attendre la fin de la journée, prendre la tevila, et il ne peut manger de la trauma qu'à la sortie des étoiles. Et par conséquent, voilà comment est le raisonnement. Tu veux savoir quand on doit dire le Kachemar du soir ? Eh bien, il faut que tu saches que tu te demandes quand est-ce que le Kohani mange pour rentre dans le camp de la pureté pour manger la trauma, il a fini son impureté. De quoi il s'agit ? Maintenant, faire un rappel chronologique. Ça veut dire que tant que le temple existait, eh bien là, le modèle du service de Dieu, c'est le Kohen. On va prendre le Kohen comme modèle pour répondre à la question en tant que quoi je suis un homme qui va commencer le service de Dieu dans la journée qui vient. L'Avoda. L'Avoda commence par la première mitzvah, le Kretschma. En te couchant, en te levant, on a établi qu'en te couchant, c'est à l'heure où la majorité se couche, c'est le soir. Ça, c'est encore un autre problème, mais je le résume. Et alors, il y aurait différentes références possibles. Je vous schématise les sept opinions. Il y a une opinion qui est formulée de quatre manières différentes. On prend le Kohen comme modèle. Une opinion où on prend le pauvre, le Rani, qui vient manger le pain de la charité. Rani, Ochel, Pito, Vamelach. Et une autre opinion qui est, c'est à l'heure où, au commencement du Shabbat, le Baal HaBayit, qui vit, lui, de son travail, qui mange le pain de son travail, sa table pour le repas du vendredi soir. Alors, il y a trois types de références. Là, vous savez qu'à la fin de l'exécution du temple, il y a eu la multiplication des sectes dans le deuxième royaume de Juda. On connaît essentiellement trois sectes fondamentales. Une qui a donné le judaïsme traditionnel, le judaïsme rabbinique, c'est les pharisiens. Le principe de la shita, de la conception des pharisiens, de comment continuer à pratiquer la Torah après la destruction du temple, c'est de prendre les Kohanim pour modèle. C'est la formule Ochlin, Chulin, Betahara. Ceux qui mangent les nourritures profanes avec les mêmes précautions que le Kohen prenait pour manger la nourriture consacrée. C'est la définition du judaïsme traditionnel selon les pharisiens, c'est de faire comme si nous étions tous encore dans l'effet de Kohanim et Boïkadosh, bien que le temple soit détruit. Quel est le modèle de l'engagement vis-à-vis de la Torah ? C'est le Kohen. Alors, qu'est-ce que c'est dit Kriyat Shema ? C'est proclamer la souveraineté de Dieu sur moi. Et la définition qu'on donne la Gemara, c'est que le premier paragraphe du Kriyat Shema, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. Le deuxième paragraphe et le troisième, c'est reconnaître sa loi. Donc, reconnaître la souveraineté de Dieu sur moi, c'est reprendre le service devant Dieu dans le jour qui vient. On prend comme modèle le Kohen. Donc, le raisonnement que la Gemara va expliquer à propos de la Mishnah, que la Mishnah m'impose, c'est ceci. Je vais de nouveau commencer une journée dans le service de Dieu. Quand est-ce que commence ce service ? Eh bien, je dois me rappeler qu'il y a un problème à propos du Kohen, à quelle heure le Kohen reprend son service. Quand il était en état d'impureté, il n'était pas apte au service. À partir de quand son impureté s'est achevée, de telle sorte qu'il puisse de nouveau manger la truffe. Vous devinez, derrière, il y a énormément de choses. Mais c'est essentiellement cela que nous allons lire dans la Gemara dans les quelques minutes qui nous restent. Je vais prendre ici. Là. Je vais compter les lignes à partir de la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La dixième ligne à partir de la fin. Les deux premiers mots, c'est Mirde Arbit, ça appartient à l'enseignement précédent. Mirde, un enseignant. Amarmar, le maître a enseigné. Alors là, vous apprenez que c'est une édition ashkénaze que vous avez. Les ashkénazim disent Amarmar. Les sfaradim disent Amarmor. C'est très paradoxal. En général, c'est les ashkénazim qui disent O, et les sfaradim qui disent Arbit. Mais Mor, ça veut dire le maître. Alors que Mar, ça veut dire monsieur, Mar. Et ça peut vouloir dire le maître, mais comme il y a Mar ou Shmuel, chez les Sfaradim, on dit Mor, bien désigné que ce n'est pas Mar de Mar et Shmuel. Je vais rien apprendre. Le maître de la Mishnah a dit, à partir, Mishara, à partir de l'heure où les Kohanim, Nirasim entrent, les Cholbi Troumatan pour manger leur Trouma. Mirde. Et maintenant, Kohanim, Emad Karli Trouma, les Kohanim eux-mêmes. Quand est-ce qu'ils mangent la trouma? Réponse, Misharat, c'est le Korabim. Nous le savons d'autre part. C'est l'heure de la sortie des étoiles. D'après le verset, Uba Hashemesh Betaher, Veachar, Kar, Yochan, Minakodashim. Puisque je suis enroué, le verset dit à propos des Konim, Uba Hashemesh, le soleil se couchera, Betaher, et il sera purifié. Il s'agit de savoir qui sera purifié. L'homme sera purifié. Par le Kohen qui était impur, par le sacrifice d'expiation du fait qu'il s'est rendu impur, alors à ce moment-là, il faut attendre le lendemain matin. Et, ou pas chez ça voudra dire le soleil viendra le lendemain matin. La Gemara établit que c'est le jour qui doit être purifié de la lumière, et le signe que le jour est purifié de la lumière, c'est l'apparition des étoiles. Donc le verset dit, ou pas chez et le soleil se couchera, et taher, et le jour sera purifié, et on le sait parce que c'est dans le verset avant. Il y avait Racha, c'est Bessarou Bamaïm, il lavera sa chair dans l'eau, donc la Tvila est dite avant. Et après seulement, le Chal Minakodashim, il pourra manger des nourritures saines. Retenez bien cela, on va finir cela. L'itne, Misharat, c'est le Korabim. Puisqu'on sait que le Kohen mange sa trouma à l'heure de l'apparition des étoiles, qu'il enseigne à l'heure de la sortie des étoiles, Milta Agavurche Kamashmarlan. La Mishnah veut nous apprendre, entre parenthèses, un enseignement supplémentaire. Agavurhe, ça veut dire entre parenthèses, en chemin. Kohanim, le raisonnement suivant, les Kohanim, Emad Kar Levi Trouma. Quand est-ce que les Kohanim, eux, mangent la Trouma? Misharat, c'est à Korabim, depuis l'heure de la sortie des étoiles. Ve'akamash Marlan, et ça nous apprend, ça implique des Kapara Lame'akira, que le sacrifice d'expiation n'est pas un empêchement. C'est là quand j'arrive à l'explication dernière, et simplement pour vous indiquer à quel point c'est important, la lettre même de la Mishnah, telle qu'elle est expliquée dans la Gemara, ceci, ça veut dire, je pourrais croire que le Kohen qui s'est rendu impur, non seulement il doit attendre la fin de l'impureté, et c'est le soir, d'après le verset, mais il faut attendre l'expiation du fait qu'il se soit rendu impur, et alors le sacrifice ne peut se faire que le lendemain matin, et qu'il ne pourrait être de nouveau apte au service que le lendemain matin. Kapara, mais Akera, ça voudrait dire, le sacrifice d'expiation est un empêchement à ce qu'il mange sa trouma. Alors on a pris ce modèle de sainteté-là, et pas plus grave, pour nous dire ceci. À la fin de la journée qui a passé, j'ai eu des fautes. Est-ce que je peux tout de suite, avant même d'expier mes fautes, reprendre le service et dire le krachma? Puisque je prends comme modèle le Kohen, qui va tout de suite manger sa trouma, et il peut attendre le lendemain matin, pour apporter le sacrifice d'expiation, c'est ce modèle-là que je prends. Ça veut dire dès que le jour a fini, je dis d'abord le Krashmar et après seulement la Tfila. C'est dans la Tfila qu'il y a le rite d'expiation des fautes du jour précédent. Le Krashmar, c'est la proclamation que je suis de nouveau au service de Dieu. C'est un problème extrêmement important. Tant que je n'ai pas expié, est-ce que je suis déjà apte au service ou bien il faut que j'expie avant d'être apte au service? Un problème très difficile. Vous voyez comment la halakha nous tranche. Le fait qu'on nous ait donné pour mesure tu fais le chemin du soir. Le soir et pas le matin, ça implique qu'on a le temps de faire la capara le lendemain matin. Mais tout de suite, on reprend le service. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris dans quel problème? Alors, personne ne pouvait se douter que derrière cette question, à partir de quand on dit que je fais le chemin le soir, il y avait toutes ces préférences. J'ai tenu, pour une fois, à vous donner cet exemple, que tout ce que nous apprenons dans le texte de la Torah, c'est rien tant qu'on n'a pas étudié la Gemara. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Bon, je crois qu'on est arrivé à l'heure de la prière, et on va dire Kriyat Shema, parce que déjà les étoiles sont apparues. Hein? Ah non, pas pourquoi pas. On va faire. Ah, oui. Hein? Oui, bonjour. Il y a quoi la semaine prochaine? Vous savez, je vais vous dire, pour ceux qui veulent organiser leurs vacances, l'ensemble des cours au Merkaz sont arrêtés depuis Tisha B'Av, mais moi je continue à faire cours jusqu'au 15 août. Et ensuite, il y aura les vacances entre le 15 août et le début septembre où il y a les fêtes. Mais vous recevrez le programme suffisamment à temps pour savoir quelle sera l'année prochaine. Et donc, les deux cours qui continuent, c'est le dimanche soir le cours en hébreu et le mercredi soir le cours en français. Donc, alors on va rester pour faire. Ah oui.
Parce que j'ai pas imprimé en français. J'ai imprimé en anglais.
Mais j'ai le temps en français.
Mercredi.